Phil P.M. Faut que je te raconte.
Moi, j'avais décidé de prendre un 5 étoiles. Tu sais, mais du temps qu'à Cuba, prendre un 5 étoiles, pas de chance, tu sais, pour le manger. Les gens sont déjà allés à Cuba. Levez la main. Ouais. N'as-tu que vous y retourner? C'est comme la prison, tu sais, il y a des récidivistes là, qui aiment se retourner là, tu sais.
Voici Michel Barrette.
Hey, ça, c'est un monologue que je n'ai fait qu'une fois à mon retour de Cuba il y a quelques années. J'ai fait une fois en revenant.
Puis Larry l'a trouvé.
Il a trouvé ça.
Il est fort, notre mais Larry.
Où il a pu trouver quelque chose que je n'ai fait qu'une fois?
Ah, ben là, tu lui demanderas. Mais sais-tu quoi?
Oui.
Ça nous amène quand même un sujet très important.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'OVNI, de vous, si vous avez été témoin de phénomènes étranges.
Ça va être dans notre deuxième partie, mais tu fais bien de préparer nos auditeurs, hein, si vous avez une histoire. Mais déjà, hier, on leur avait dit, là, qu'on allait respecter notre promesse de vendredi dernier.
Bon. Exactement.
Mais avant d'aller aux OVNI, parlons un petit peu des étoiles qu'on va déposer au bas d'un hôtel, d'un restaurant,
bon, même d'un produit parfois.
Est-ce que tu te fies là-dessus? Puis c'est la question qu'on va poser aux gens dans un instant. On va ouvrir les lignes assez rapidement. 790-9850. Est-ce que vous vous fiez à ça? Est-ce que vous vous fiez en le fond aux notes laissées par les autres consommateurs, les autres utilisateurs sur Internet, comme sur TripAdvisor par exemple?
Oui.
Toi, là, est-ce que tu...
Ben, veux pas, je pense que quand on veut prendre... Mettons, on s'en va à Los Angeles, on dit, bon, ben, on va se trouver un hôtel. On va avoir tendance à être influencé par... Je veux dire, c'est une influence à l'envers. C'est-à-dire que si je vais sur TripAdvisor, exemple, et que je ne vois que 2 étoiles sur 5 pour l'hôtel X, d'emblée, je n'irai pas là.
OK, tu l'élimines. Donc, t'es très influencé, là.
Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de 4 puis de 4 puis de 5... Est-ce que vraiment ça vaut 4? C'est-à-dire que si je prends l'hôtel Y puis qui était à côté 4 et que j'arrive là-bas...
Est-ce que ça va être vraiment un 4?
Est-ce que ça va être vraiment un 4?
Parce que là, il y a une étude du Harvard Business School qui vient de sortir, puis c'est pour ça qu'on vous en parle, les auditeurs. Ne faites pas confiance aux avis des internautes parce que le nombre d'étoiles obtenues par un resto ou par un film ou par un hôtel, c'est loin de refléter la qualité du produit.
Oui, c'est ça. Et est-ce que l'hôtel elle-même n'engage pas des gens pour faire des commentaires, ne paye pas des gens?
Ça a déjà été fait et dit et démontré, cela.
Et l'inverse a déjà été fait aussi, c'est-à-dire des hôtels qui, pour planter l'hôtel concurrente,
c'est clair,
ont envoyé des mauvais commentaires, la bouffe n'était pas bonne, nanana. Alors tout ça, si c'est une petite guerre en cachette, bon. Nous, les consommateurs, est-ce qu'on a vraiment leur juste?
Mais tu vois, moi, je vais te dire notre expérience, là. Alors, je vous le dis tout de suite, les auditeurs, si vous voulez commencer à appeler, là, c'est le bon moment, 790-9850 ou encore 98985 par texto. Moi, je vais te dire, là, je suis un peu comme toi. Puis ma blonde Martine, là, elle se fie beaucoup là-dessus. Beaucoup. Mettons qu'on s'en va en voyage, là, puis il faut choisir un hôtel, mettons, là. Puis, mais en fait, sais-tu quoi?
Ouais.
Soyons plus précis.
Okay.
C'est pas tellement le nombre d'étoiles, mettons, c'est les commentaires.
T'as absolument raison.
Les commentaires. Parce que les commentaires, on pense peut-être à tort qu'on est capable de décoder les vrais des faux.
C'est vrai. Dans le langage utilisé.
Oui, c'est ça.
Mettons, quelqu'un va avoir dit, on a bien aimé l'hôtel, par contre, on nous avait promis une belle plage, alors que la plage, il y avait des saletés.
Ouais.
Et quand il y a des petits détails comme ça, tu fais, puis que tu retrouves 3 commentaires plus loin d'une autre personne, d'un autre lieu.
Là, c'est quoi, ça te rend sceptique ou ça te rassure?
Ça me rassure.
Ça te rassure, parce que tu dis...
Je me dis, il y a comme chose de récurrent là, dans les commentaires. Là,
d'accord.
Tu sais, c'est comme une demi-écoute. Tu n'écoutes...
Moi, sais-tu quoi, des fois, par les fautes.
Ah, les faux.
Ben oui, parce que tu te dis, si quelqu'un, ouais. Ben là, peut-être je suis innocent, là, mais tu te dis, si quelqu'un qui paye, me semble qu'il
il
va,
aura pas de faux.
Il va faire attention.
Ouais. Mais bon, mais, si je faisais ça, je payerais quelqu'un qui fait des faux.
Mais c'est ça, là, peut-être que je suis en train de donner le secret.
Mais on est en train de se demander, dans le fond,
c'est-tu vrai, si
on se fait avoir, tu sais.
Oui, c'est ça.
Uh-huh. Exactement. Ben justement, l'exemple est parfait. Le numéro sur Cuba, que Larry a trouvé, je sais pas où, parce que je ne l'ai fait qu'une fois. C'était un hôtel, on est allé à Cuba, ma femme et moi, avec Jonathan, notre plus jeune, un hôtel 5 étoiles, plus cher qu'ailleurs. On s'est dit, tant qu'à découvrir Cuba, c'est notre première fois, on va y aller pour la totale, écoute, les 5 étoiles, puis la grosse affaire. Écoute, je te le compterai pas, parce que je veux pas décourager les gens d'aller à Cuba, parce qu'il y a des gens qui ont des expériences.
Non, puis moi, j'étais allé à Cuba plusieurs fois, puis ça,
ben,
ça,
là, on écoute, est allé,
ça a été heureux comme expérience.
C'était le pire voyage de ma vie. Le pire voyage de ma vie. Quand
y a-t-il longtemps de ça, là?
Il y a quoi, 3 ans, 4 ans? 3-4 ans. Et quand tu dis que tu peux même pas identifier la bouffe.
Ben voyons.
Non, non. écoute, je ne parle que de cet hôtel-là dont j'oublie le nom, là.
Oui, c'est aussi bien.
De loin, là, de loin, tu disais, mais là, ça, c'est le comptoir de bouffe. Quand tu arrivais devant les plats, tu savais pas si c'était un spaghetti ou un poulet entier. Tu savais pas si c'était une lasagne ou des mets chinois.
OK, puis c'était supposé être un 5, ça, là?
Ah, oh, c'était un 5. Un 5 top, là.
Il y en a un qui m'écrit, un auditeur, il dit, je pense que même un 6 étoiles à Cuba, c'est pas assez.
Mais c'est parce que c'est 6 étoiles sur 100. C'est ça la différence.
Ben oui, c'est ça. Alors, on a des appels. Louis, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je suis conseiller en voyage.
Oh, OK. Oh. OK, oui.
Puis, il y a beaucoup de gens qui se fient à ça, le nombre d'étoiles là, qu'on ben oui. voit sur l'Internet. Là.
Et oui.
Moi, ce que je conseille à mes clients, là, c'est d'y aller avec des entreprises qui ont des marques, comme les Breezes, les toute cette okay. gang-là. Là.
Ceux qui ont
des gens qui ne seront pas là, à ce moment-là.
OK.
Puis quand c'est chaînes. Pas trop cher, là, fiez-vous à moi, il y a un problème.
Quand c'est pas trop cher, vous allez en avoir pour votre argent.
C'est exactement ça. Moi, je dis à mes clients, c'est, écoute, au lieu d'y aller deux fois par année, vas-y une fois, mais vas-y comme du monde. C'est ce que je me dis, moi, puis ça fonctionne à 95%.
Merci.
Puis, les 5 étoiles aussi... à Cuba, ça n'existe pas.
OK. Merci. Ce que vous nous dites aussi à Mimo, c'est fait affaire avec un agent de voyage.
Ah, il y a peut-être un petit peu de ça.
Peu, hein?
Ça se peut.
Non, mais
ça
c'est
se
parce que souvent, ça. Les gens, on rit, mais l'agent de voyage, souvent, ils sont allés sur des lieux.
Ben oui.
Ils ont leur propre expérience. Ils vont dire, fiez-vous pas. Là, moi, je vous conseille cet hôtel-là plutôt que tel autre parce que j'ai un groupe qui est allé l'an passé. Ils ont bien aimé ça. Puis
regarde, c'est... il y a des avantages à faire affaire avec un. T'sais, on les a comme un peu mis de côté là, parce qu'on utilise toutes sortes de sites maintenant pour avoir des bons prix. Mm-hmm. Mais des fois, d'avoir le conseil, effectivement, d'un spécialiste.
Et en plus, si c'est une bonne agence, si tu as un problème en voyage, tu as toujours une personne de référence que tu peux appeler et dire, écoute, tu me conseilles telle affaire. J'arrive ici, la piscine est vide. Là,
ça va pas bien. Stéphanie, bonjour.
Oui, allô?
Allô?
Bonjour. Oui, dans le fond, moi, j'ai 28 ans, je fais partie de la génération d'Instagram. Fait que c'est sûr que TripAdvisor, ça me rejoint moins. Mm-hmm. Mais avant d'aller dans un restaurant, je vais toujours, toujours regarder sur Instagram. Généralement, un bon resto va avoir des photos et des bons commentaires. Ça peut pas mentir.
Ah, des photos, oui, c'est vrai. Photos et bons commentaires. Et vous
Instagram,
avez jamais été déçu?
Pardon?
Vous avez jamais été déçu? Vous avez jamais vu de bons commentaires sur Instagram puis vous êtes arrivé au restaurant puis c'était pas ça?
Non, non, on voit la photo des plats, on voit les commentaires des gens puis c'est ça que je peux aimer une assiette, quelqu'un d'autre non, mais au moins, ça, on va voir, ce sera pas comme, mettons, un spaghetti qui ressemble à un poulet, là. C'est vraiment... on va comme d'habitude quand ça a l'air bon, c'est bon.
OK, c'est bon. Merci Stéphanie. François, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Et bon, moi, je me fie un peu à ce que je vois sur TripAdvisor, mais avec une certaine restriction. Je vois un peu comme plus haut, plus bas sur missionnaire. J'enlève ce qui est vraiment pas bon, puis j'enlève ce qui est vraiment très bon. Habituellement, ça te donne quand même une idée, puis à venir jusqu'à date, j'ai été quand même pas mal servi par ça.
J'haïs pas
l'autre
ça,
avantage, c'est que j'ai travaillé dans le tourisme pendant longtemps, et puis, je peux vous dire que il y a toujours des gens qui sont ce que j'appelle les internels insatisfaits, qui vont mettre, no matter what, des commentaires négatifs. Puis t'as des gens qui sont fleurs bleues, qui vont croire à tout ce qu'on leur dit au niveau de... qui vont mettre des commentaires aussi à l'opposé, qui sont trop bons pour ce que c'est. C'est un peu comme ça que je fonctionne, puis il n'y a rien comme... Aussi comme votre intervenant avant disait, à un moment donné, si tu prends une semaine à Cuba pour 560$ tout inclus, ben tu vas avoir pour 560$ tout inclus.
Tout inclus.
Ça coûte plus cher que ça manger ici, fait que ça serait étonnant que ça coûte moins cher à Cuba.
Merci,
c'est intéressant
François.
Ce que François disait, parce que parfois, il y a des éternels insatisfaits.
Oui.
Et je pense que c'est le Nouvel Observateur, ou je ne sais pas, un magazine européen qui avait publié les pires plaintes de clients à l'hôtel. Genre, quelqu'un avait pris, exemple, une limonade, mais la glace était trop froide.
Ben oui.
Faut être chiant. Les draps étaient trop blancs.
Non, mais des fois, les Québécois, on est bons là-dedans.
Oh, arrête.
Et Colin, qu'on peut être bons là-dedans. Martin, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, on vous écoute.
Oui, ben moi, j'appelle parce que ça m'interpelle un petit peu parce que je travaille dans le commerce électronique. Puis je dois vous dire que, oui, vous avez raison que des fois, il faut regarder les reviews, comme on appelle en anglais, d'une façon un petit peu différente. Par contre, il y a différents types de reviews. Il y a des reviews qui sont anonymes. Là, ceux-là, il faut en prendre un peu comme des grains de sel. Mais il y a d'autres types que quand on est capable de faire un review, c'est parce qu'on a fait un achat. Puis là, c'est par la suite qu'on a fait un achat. Là, on reçoit un courriel par la plateforme en tant que telle. Puis là, c'est là qu'on fait un review. Là, ces reviews-là, ils ont beaucoup plus de pertinence parce que c'est une personne vraiment qui a été associée au produit et ainsi de suite. Donc,
quand
on parle dans le voyage, Puis on parle de voyage, comme vous avez parlé tantôt, c'est sûr que si on prend un 5 étoiles, comme Michel parlait, on paye plus cher pour un 5 étoiles. Fait que nos attentes sont plus élevées. Quelqu'un, si on prendrait un 3 étoiles, là, on paye. Là, nos attentes sont beaucoup moins. Fait que là, c'est le temps un peu plus. Wow! C'est normal qu'on paye. On veut avoir un 5 étoiles. Il faut faire attention aux différents reviews. Sur Google,
Merci, regarde.
des reviews sur Google, on en voit qui sont anonymes. Ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Toute la personne est loguée, qu'on a son nom, son courriel, ou il est associé à Facebook, qu'on voit son profil. Mais en général, c'est des reviews qu'on peut prendre, on peut
leur donner une crédibilité. Merci Martin pour l'appel. Tu vois, j'ai quelqu'un qui m'écrit. Il dit je suis très curieuse moi. Elle dit je regarde les photos des gens sur Facebook.
Ah,
c'est une source d'information Facebook à ce moment-là. Puis elle dit ça marche très bien dans mon cas. Donc ce que je retiens Michel, c'est que les gens dans le fond informez-vous à plusieurs sources. Tu sais, informez-vous à plusieurs sources. Puis à un moment donné, si ça se corrobore, si ça se confirme, là tu peux dire ok c'est pas mal confirmé.
Mais si vous voyez mes photos de moi à Cuba, n'y allez pas. En tout cas, pas là où moi je suis allé.
Oui, non, ça, on a bien compris, mon cher Michel. Alors là, c'est l'histoire du gars qui a vu une soucoupe volante. Tu vas nous conter ça, toi, là.
Oui, après la pause.
Après la pause.
Totalement de la sceptique.
Totalement sceptique. 790-9850. Là, Michel est convaincu que vous allez appeler, là, puis vous allez nous raconter toutes sortes d'histoires que, je sais pas, vous avez vu des bonhommes verts ou des bonhommes bleus, je sais pas trop, là.
Des soucoupes, des phénomènes étranges.
Tu y crois vraiment, toi, là?
Tellement.
OK, après la pause.
Drainville PM. Faut que je te raconte. Voici Michel Barrette.
Les sceptiques seront tu. Merci tout le monde.
Capitaine Bonhomme, Capitaine Barrette.
Je me sens comme un capitaine. OK, je t'en compte une autre. Quand j'étais jeune, mon père, m'avait raconté à moi et à mes sœurs une histoire qui m'est revenue dans la trentaine. Puis à un moment donné, je suis débarqué à Chicoutimi chez mon père. Je dis, père, quand vous étiez jeune, tu nous avais conté une histoire de soucoupe volante. C'est quoi déjà l'histoire? Non. Comment non? Ben oui, tu nous as conté une histoire. Ma mère dit, non, on a promis de pas en parler, sinon c'est la cour martiale. Je dis, père, ma mère a dit, mon pitou, ça fait 50 ans que t'es plus dans l'armée, là, ils vont pas venir te chercher parce que tu comptes aux enfants l'histoire. Alors raconte, père, raconte-moi. OK, mais il faut pas t'en parler à personne. Arrête. Alors, et l'histoire racontée par mon père, que je vais te raconter là, un jour, je lisais des livres sur un livre sur les ovnis, Sao Paulo, Brésil, Paris, n'importe quoi. Oh, Gimli, Manitoba, 1952, et l'histoire racontée dans le livre, c'était celle que mon père avait racontée, qui est très simple. Alors, mon père est sur la base à Gimli, dans l'aviation royale canadienne, il y a un objet volant non identifié. Alors, un chum à mon père prend un T-33, un jet, vole. Mon père et ses deux chums s'en vont au radar pour suivre la conversation. Et là, tu as le pilote qui s'approche de l'OVNI. Sur le radar, tu as le point qui identifie comme étant l'OVNI et tu as le point du T-33 qui s'approche.
Okay.
Le pilote, le chum à mon père, décrit ce qu'il voit et c'est vraiment l'image qu'on se fait d'une soucoupe. Tu sais? Et là, il s'approche, puis à un moment donné, il poursuit un peu l'OVNI. À un moment donné, les deux points se rejoignent. Le point de l'avion disparaît et le point de l'OVNI part à une vitesse qu'il n'y a pas un avion qui peut voler. Réunion sur la base des autorités, mettons des commandants, je sais pas quoi, la gang qui ont été témoins d'événements, puis on dit ça ne sort pas d'ici.
OK, mais le pilote est revenu, lui?
Jamais.
Mais voyons.
Ni le pilote, ni l'avion. Et là, tu vas me dire, Gimli, Manitoba, c'est près du lac Winnipeg, peut-être l'avion est tombé dans le lac.
Ils n'ont jamais retrouvé l'avion?
Jamais trouvé l'avion ni le pilote. Et là, tu vas me dire, mettons qu'il est tombé à l'eau. Mettons que l'avion serait tombé dans le lac Winnipeg. Mais un avion qui s'écrase dans l'eau, il y a des morceaux qui flottent, il y a de l'essence, jamais retrouvé. Et un jour, en lisant ce livre-là, il y avait dans le livre exactement cet événement-là, qui fait partie des milliers d'événements qui sont documentés. Il y a bien sûr plein de il y a plein de postes spécialisés qui ont des émissions OVNI, dernier dossier, puis toutes sortes d'affaires comme
ben
ça.
Oui, mais...
Alors, il y a alors moi, toi, un jour, à 13 ans, je suis dans les cadets de l'air. On va visiter le Mont Apica, le radar qu'il y avait dans le parc des Laurentides, qui faisait partie du système NORAD. OK? J'ai 13 ans, on est en 70. Il y a devant moi un opérateur radar, puis là, il y a des points. Là. Puis là, il y avait une petite roulette, puis il mettait le cercle sur le point. Il va dire, ça, c'est un Cessna qui vole à 160 000 $ direction ouest, mettons. Ça, là, j'ai dit, moi, naïvement, le flou, là, j'ai dit, ça existe-tu des ovnis? Et le gars, il m'a fait un grand sourire, il dit, ben oui. J'ai comme fait pour savoir. Mais il dit, un avion, ça vole. Puis il dit, quand tu vas arriver à un point qui arrête en plein vol, ou qui vire au 45 degrés, puis qui repart dans l'autre sens à trois fois la vitesse supérieure d'un avion normal.
Là. Ça, c'est un ovni.
C'est un ovni.
OK, puis il y avait un 40 onze à côté, le gars, là, qui te racontait ça.
Non, c'est un militaire de carrière, opérateur radar.
Bon, OK. Christelle, ah non, c'est pas Christelle, ce sera Philippe. Bonjour, Philippe.
Ben, bonjour à vous deux.
On vous écoute.
Bonne journée. Écoute, moi, c'est en 1969, c'est pas d'hier. J'aurais jamais pensé pouvoir parler de ça après 50 ans. Mais le sujet, ben moi, en 69, avec un de mes amis, j'étais un cadet de l'air, moi aussi, puis je suis astronome. Fait que j'ai un télescope, je regarde la Lune à 11 heures le soir avec mon chum. Mm. Et puis, tout d'un coup, il y a trois petits points blancs qui apparaissent à côté de la Lune. On l'observe avec le télescope, et puis là, les trois petits points blancs, ils sont multicolores. Il y a des couleurs, le vert, le rouge et le blanc, ou quelque chose comme ça. Puis on a comme l'impression qu'ils bougent. Fait que là, on a pris un poteau de téléphone sur la rue à Montréal pour le prendre comme objet fixe et puis voir si les points vont de gauche à droite. Et effectivement, il y en a de gauche à droite. Et puis on a continué l'observation. Ça a duré peut-être 5-10 minutes. Là. Mm-hmm. Les points étaient là. Et puis tout d'un coup, ça a parti en zigzag, comme un Zorro, là.
Oui.
Ça a parti, ça a disparu, puis là, on s'est regardé, moi et mon chum, puis on a dit, on n'en parle pas parce qu'on s'en va à Maison Grise à Louis-H.
Oui, si celui qui vous reçoit à Louis-H, La Fontaine, ressemble à Bernard en ce moment, vous allez rester là.
Écoute, ça, t'as fait des notes, la loi du silence était là, puis ferme ta gueule, parce que ça passera pas. Puis là, aujourd'hui, puis on est en 2019, puis aujourd'hui, on a des vues concernant un événement qui est arrivé aux États-Unis. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui atterrit dans le Midwest américain, qui est clôturé, qui est top secret, et puis que les gens essayent de traverser la clôture pour aller voir, puis ça semblerait que c'est quelque chose qui a tombé, qui est un objet non identifié, qu'on aurait peut-être découvert d'extraterrestres, et puis il y a une vue qui existe là-dessus, là, présentement.
Bon. Hey, Philippe...
Il nous présente en plus de ça.
Mais j'espère que vous vous sentez soulagé, Philippe, d'avoir pu finalement raconter votre histoire. Et puis, je vous salue, je vous remercie.
Hein? J'ai beaucoup d'émotions, fait que je vous souhaite une belle journée quand même. Okay?
Merci, merci. Mais tu vois, il faut que je fasse attention. Ça marche. Il vient de me dire, j'ai de l'émotion, c'est la première fois que j'en parle. Oui. Faut pas que j'ai l'air du gars qui me moque de lui.
Non, mais c'est parce qu'on...
Je suis juste très sceptique, Michel.
On a peur de passer pour des fous quand on parle de ça.
Mais je comprends. Alors, Guy, bonjour Guy.
Bonjour à vous deux.
On vous écoute.
Rapidement, on est en 1974, je suis au cégep. Dans mon village, je demeure chez mes parents, à Saint-Anne-de-Beaupré.
Oui.
Dans la rue Saint-André, un vendredi soir, l'hiver, je vais pelleter l'entrée. Complètement silencieux, dans le ciel, un triangle blanc. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit, ça sort de nulle part, c'est-à-dire que ça apparaît. Ça a flashé quelques fois, et puis en moins d'une minute à peu près, là, ça a disparu. Ça m'a pris 20 ans, 25 ans avant de parler de ça, puis c'est quoi, il y a 2-3 ans, je suis allé voir sur Internet, je sais qu'il y a beaucoup de reportages de gens qui ont vu, seul ou en groupe, un triangle blanc.
Mais
c'est tout ce que je peux vous dire, aucune explication.
Et je vous sens comme l'auditeur de précédent, je sens une émotion, puis je sens encore une fois, vous dites ça fait 25 ans, des gens attendent 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans.
Vous êtes encore marqué par ça?
Je m'explique pas ce que c'est. Et puis, j'ai pris, comme le monsieur, là, je voulais pas me ramasser à Québec, c'était à Saint-Michel-Archange, là. Je voulais pas qu'on me ramasse avec l'ambulance pour, mais c'est vraiment particulier. C'est tout.
Merci.
Mais sur Internet, il y a beaucoup de mentions de gens qui ont vu un triangle blanc. Dans le soir, ça flashait. Bon. puis ça, aucun bruit, là.
Merci, merci Guy pour votre appel. Bon.
Complètement silencieux, c'est souvent le cas. T'as reçu souvent Christian Page.
Ben oui, mais d'ailleurs, il y en a un qui m'écrit, il dit « Coudon, Michel, il veut-tu un job à Christian? »
Non, il fait tellement ça mieux que moi. Mais en même temps, Christian est bien placé, puis c'est un spécialiste.
Oui, mais Christian, tu vois, il nous rapporte ces histoires-là, mais il garde toujours une distance. T'sais, il reste toujours très, très, très critique. Bon, Vincent, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors, avant de parler de mon témoignage, si vous avez la chance de lire Lise Ravary aujourd'hui dans le Journal de Montréal, vous verrez, elle a un article là-dessus sur les ovnis, c'est curieux. Okay. Moi, ce que j'ai vu, c'est fin septembre, début octobre 81, près de l'Assomption, le long de la 40, il y avait comme l'auditeur précédent, un triangle blanc. C'était luisant, peut-être à 3 ou 4 000 pieds d'altitude. Ça semblait suspendu. Je l'ai observé pendant 15-20 secondes. Et puis, graduellement, c'est monté tranquillement dans les nuages. Il y a eu comme une explosion, un flash, c'est disparu de façon fulgurante. Et d'ailleurs, si vous avez la chance, allez sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a filmé exactement la même chose en 2013 en Hollande. Allez voir Triangle Blanc en anglais, là, au-dessus des Pays-Bas. C'est exactement ce que j'ai vu, donc 32 années de différence.
Et Triangle Blanc, et ça fait plusieurs qui nous parlent de Triangle Blanc. Là. Merci beaucoup, Vincent. Bon. Moi, sais-tu quoi? Je vais demander à Christian Page tout à l'heure, là. C'est quoi les histoires de triangle blanc, là? Y a-tu des enquêtes là-dessus? Tu vois, là, j'ai plein de textos. Il y en a un qui écoute bien ça, Michel. Il dit, j'ai enseigné le français auprès d'un colonel, ancien commandant de la base de North Bay, la base aérienne de North Bay, qui était une base très importante dans le dispositif de NORAD, justement. Et ce colonel, me dit l'auditeur, est convaincu que les ovnis existent, les ayant probablement vus sur les radars.
Ouais.
Tu vois, par contre, il y en a un autre. Il dit, il y a beaucoup d'histoires qui sont passées dans les années 70, hein? Il dit, dans ce temps-là, le LSD était très populaire.
Bon. Ben, là, quand on veut pas, hein?
Regarde.
Alors, on a-tu un autre auditeur?
Non, je pense que c'est toi le dernier, là, qui va mettre le point final à cette discussion, mais je sens qu'on y reviendra parce que toi, t'es vraiment convaincu.
Oui.
Toi, t'es convaincu parce que tu...
Mais c'est parce que, tu vois ce que je retiens des gens qui nous ont appelés.
D'abord.
Cette gêne-là,
mais c'est pas des, tu vois que c'est pas des capotés, là. C'est
non,
du monde qui...
Pas une histoire de...
Non, mais tu vois que c'est des gens sensés, là. Oui. Tu vois que c'est des gens posés. C'est pas des hurluberlus, là.
Oui. J'essaie de mettre la main sur, C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, puis je me suis souvenu hier qui c'était, sauf que j'ai pas réussi à le rejoindre. C'est un policier qui, lui, dans son village de Gaspésie, s'était fait comme poursuivre à vélo par un objet comme
oh
ça.
Oh boy!
Ouais.
OK, ben là, regarde, là. Quand tu l'auras retrouvé, là, OK, tu l'enregistreras.
Non, je vais demander de nous appeler.
Oui, OK, on fait ça.
C'est de la Sûreté du Québec.
Il s'est fait pourchasser par un ovni.
Ouais.
C'est sûr que c'était pas un chevreuil? Dans ce temps-là, il y avait des orignaux en Gaspésie. C'était peut-être un gros orignal avec un gros panache, puis il a pensé que c'était une soucoupe volante. Bon, OK.
Oh, j'aimerais tellement ça qu'un jour, ça t'arrive, te voir la face débarquer et dire, Michel, tu me croiras pas, quoi? Et là je me dis, t'es sûr que c'était pas un orignal, mon maman? À lundi, maman.
À lundi, Michel.